VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Timothée Dolangma ici à Washington. Il est 15h dans la capitale fédérale américaine, 19h en temps universel. Bonsoir à tous. L'ouragan de catégorie 4, Irma, qui a atteint tôt ce matin Key West dans le sud de la Floride, poursuit sa course vers les zones plus peuplées de cet État avec des vents soufflant à 215 km/h et de fortes pluies. Plus d'un million et demi de maisons sont privées d'électricité dans cet État. La météo prédit des montées brusques de 3 à 4 mètres du niveau de la mer le long des golfs des côtes du golfe du Mexique. Des inondations sont déjà signalées à Miami. Retrouvons à Miami Marc Elias, ancien chef de la police de North Miami, à qui j'avais parlé il y a de cela une heure.
J'avais un peu d'électricité, maintenant il n'y a pas d'électricité et les arbres, c'est vraiment terrible où je suis maintenant. Mais enfin, on est là.
Est-ce que l'ouragan est arrivé à Miami?
Oui. C'est ça, ça commence à frapper. C'est passé de Key West, maintenant, on commence à sentir ça très fort à Miami.
Et donc, il y a beaucoup de vent, de pluie. On parle même d'inondations dans les rues de Miami.
Oui, il y en a des inondations. Par exemple, à des villes qui sont près de l'eau, en North Miami Beach, Biscayne Bay, ces endroits-là, oui, il y a des inondations.
La plupart des personnes sont parties, c'est cela?
Key West, Key Largo, oui. Les agents de police ont été de maison en maison pour leur demander de sortir. Oui, mais à Miami, on nous a demandé, mais c'était pas, mandatory pour
obligatoire.
Pour évacuer. Oui, exact.
Voilà, c'était Marc Elias, ancien chef de la police de North Miami, et qui nous parlait de Miami en Floride. Le gouverneur de la Floride, Rick Scott, a exhorté des centaines de milliers d'habitants à évacuer les zones menacées. Il a demandé au président Donald Trump de déclarer un état de désastre majeur pour faciliter l'aide fédérale à la Floride. Le chef de l'exécutif américain, qui se trouve à Camp David, a reçu un briefing détaillé sur cette situation.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les forces de sécurité égyptiennes affirment avoir tué 10 militants présumés dans 2 raids contre 2 appartements du centre du Caire. 3 policiers ont été blessés dans l'opération. Les suspects appartiendraient à Hassan, un groupe islamiste ayant revendiqué plusieurs attaques contre des magistrats et des policiers au Caire. Le groupe islamiste somalien Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attentat qui a fait au moins 3 morts et 13 blessés, y compris 3 journalistes ce dimanche à Beledweyne, dans le centre de la Somalie. Selon des témoins, le kamikaze a actionné sa charge explosive dans un café proche de l'administration régionale. Cette attaque intervient 3 jours après une autre qui avait visé un restaurant de la ville de Baïdoa, faisant 5 morts, dont 2 travailleurs humanitaires. Le gouvernement tanzanien a annoncé la nationalisation de diamants de la compagnie Petra Diamonds en voie d'acheminement vers la Belgique et saisie le 31 août à l'aéroport de Dar es Salaam. Les autorités tanzaniennes accusent Petra Diamonds d'avoir déclaré une valeur de 14,7 millions de dollars alors qu'à leur avis, ces pierres précieuses valent 29,5 millions de dollars. Les insurgés Rohingyas du Myanmar ont appelé à un cessez-le-feu d'un mois à partir de ce dimanche en vue de permettre l'envoi d'aide humanitaire dans les zones affectées par les hostilités. Les attaques de l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan et les représailles des forces de sécurité ont déplacé plus de 300 000 personnes. Amnesty International accuse les autorités du Myanmar de viser les Rohingyas en plaçant des mines sur les routes qu'ils empruntent pour se réfugier au Bangladesh. L'Organisation de la coopération islamique dénonce de son côté des actes systématiques, des actes brutaux de la part de l'armée du Myanmar à l'encontre de cette minorité musulmane et appelle à une enquête internationale. Enfin, en sport, la finale Home de l'Open des États-Unis oppose ce dimanche à New York Rafael Nadal à Kevin Anderson. La finale dame a été remportée hier par Sloane Stephens en 2-7 face à Madison Keys. Voilà, c'est tout. Timothée Dolangma ici à Washington. Je vous retrouve à 20h temps universel.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous interactif consacré à la foi et à ses pratiques, parfois à ses problématiques. Nous avons dans cette émission, à plusieurs reprises, qu'il s'agisse d'Éric Manirakiza ou moi-même, parlé du pèlerinage à la Mecque. Cette fois, nous nous intéresserons à ces femmes qui font le pèlerinage. Qui sont-elles? Comment se préparent-elles au pèlerinage? Et comment vivent-elles ce qui est un événement important dans la vie de tout musulman? Vos témoignages sont les bienvenus au 001 202 205 26 33. Je répète pour les distraits, 001 202 205 26 33. Vous pouvez également faire comme de très nombreux auditeurs de VOA Afrique, vous manifester via la page Facebook qui vous est consacrée, qui vous est dédiée, et vous êtes déjà nombreux à le faire. Petit rappel, pour les musulmans, le pèlerinage à la Mecque est donc l'un des actes spirituels les plus forts de la religion. Le Hajj constitue le 5e pilier de l'islam et il doit être accompli par chaque croyant au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens, et les femmes n'en sont pas exclues, mais elles ne peuvent pas y aller seules. Elles doivent être accompagnées de leur mari ou d'un mahram, un musulman avec lequel elles ne peuvent se marier en raison d'un lien de parenté. Et ce monsieur, cette personne doit être musulmane, pubère et saint d'esprit. Tradition également plus méconnue, c'est que les femmes doivent rester le visage découvert pendant tous les jours où elles effectuent le pèlerinage. Il est ainsi interdit de porter un niqab ou des gants en vertu, dit-on, de la parole du prophète. Selon l'historienne spécialiste de l'islam Jacqueline Chaby, historienne française, il n'y a rien dans le Coran lui-même sur les femmes et le pèlerinage, et si règle il y a, elle vient de la tradition. Je viens de vous en donner quelques-unes des règles, en voilà d'autres. La pèlerine est autorisée à porter une robe, un pantalon et des chaussettes de la couleur de son choix, des bracelets, une montre, mais elle doit entourer ses bijoux de discrétion et s'abstenir de les montrer aux hommes. Il lui est en revanche interdit de parfumer son corps ou ses vêtements, de se tailler les ongles et de s'épiler. Si vous qui nous écoutez de l'autre côté du transistor êtes une femme et que vous avez effectué le pèlerinage à la Mecque, eh bien le standard de VOA Afrique vous est ouvert, 001 202 205 26 33. Votre témoignage est plus que bienvenu. Si vous êtes le père, le frère, le mari, l'ami d'une femme qui a effectué le pèlerinage à la Mecque et qui avait des témoignages, des choses intéressante à nous raconter sur le sujet, ou si vous-même vous avez une manière particulière de penser à ce pèlerinage au féminin, eh bien le numéro est le même, 001 202 205 26 33. N'hésitez pas. Nous allons voir du côté du standard qui est avec nous. Brahima Doumbia est avec nous. Alors je note d'ailleurs que c'est un sujet très féminin et qu'une seule femme s'est manifestée via Facebook. Avançons dans l'émission, peut-être y en aura-t-il d'autres. Bonsoir Brahima.
Bonsoir à tous, je vous appelle des pécifications.
Allô.
Et allô, bonsoir à tous, bonsoir à tous.
Oui, nous vous écoutons.
Voilà, concernant le pèlerinage, il faut le dire, comme tous les musulmans le savent, c'est le 5e pilier de l'islam, c'est une obligation pour tout être humain, surtout les musulmans, comme je l'ai si bien dit, de se rendre à la Mecque, que ce soit homme ou femme. Dire qu'il y a des restrictions concernant le pèlerinage de la femme, je pense que non. Étant, comme vous l'avez si bien dit, l'expert français l'a si bien dit, il n'y a pas de restrictions en ce qui se passe dans le Coran qui puisse dire que le Coran. La femme doit se tenir ou bien faire telle chose avant de se rendre.
Brahima, le fait de ne pas pouvoir se rendre à la Mecque sans homme, ça n'est pas déjà une restriction pour vous?
Je pense que cela, ce que je sache, ça n'est pas de l'avis des spécialistes, que ce soit de l'imam Malik ou bien de Ashafi ou autre. Je pense que cela n'est pas une restriction dite par le prophète, en ce que je sache.
Mais est-ce que c'est ce qui se passe quand on va à la Mecque quand même?
Vous dites?
Est-ce que les femmes peuvent aller seules à la Mecque? Pour vous?
Ici au Mali, plus précisément, les femmes partent à la Mecque seules. Elles payent leur billet d'avion, elles payent tous les frais, ou elles se font payer par leur mari ou des connaissances pour s'y rendre. et à leur retour, elles sont bien accueillies. Et quand elles passent le périmètre, comme on le sait, elles se mélangent avec les hommes. C'est une mixité, si vous voulez. C'est le lieu où les femmes et les hommes peuvent entrer en contact, se côtoyer, si vous voulez, et prendre la même direction, jusque les femmes doivent seulement s'abstenir de certains regards ou bien, comme vous avez si bien dit, des paris.
Et les hommes, est-ce qu'ils doivent s'abstenir des mêmes regards ou pas? Et les hommes, doivent-ils s'abstenir des mêmes regards?
Concernant les regards, je pense que cela devrait venir plus du côté de la femme, du fait que la femme est très sensible. Elle pourrait être attirée.
Et l'homme ne pourrait pas être attiré par la femme?
Ce cas est très rare, mais...
Il est très rare qu'un homme soit attiré par une femme?
Cela est possible. Ça sent très bien qu'à la Mecque, c'est le lieu de la socialisation, c'est le lieu de la critique. Je pense que nous
savons ici. Bon, la communication est très mauvaise et de toute manière, là, on déviait un peu. Le sujet ce soir qui nous rassemble est les femmes au pèlerinage et non pas le fait qu'elles suscitent du désir ou pas, ou que les hommes aient moins de désir que les femmes. C'est un autre débat. Merci en tout cas à Brahima Doumbia de nous avoir appelé. Continuons du côté du Standard. Et Mariam Koulibaly, enfin une femme, est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir Anastasie.
Vous êtes là, bienvenue.
Merci beaucoup.
Alors, est-ce que vous avez, Mariam, est-ce que vous avez fait le pèlerinage à la Mecque?
Non, pas encore.
Est-ce que vous aimeriez le faire?
Oui, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu.
Et qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire?
Peut-être que pour le moment, l'occasion ne s'est pas présentée et je me prépare peut-être dans 2 ans.
Vous aimeriez... Le projet ne s'est pas encore... ne s'est pas encore réalisé. Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez des femmes qui y ont été?
Oui, beaucoup de femmes.
Et qu'est-ce qu'elles vous en ont dit? Qu'est-ce qu'elles vous en ont dit?
Elles ont d'abord parlé des conditions.
Vous pouvez nous en dire plus?
Du climat aussi.
Alors les conditions, c'est-à-dire?
Les conditions, par exemple, la mosquée et l'hôtel, c'est très éloigné. Et le soleil fait beaucoup chaud et il y a des personnes âgées qui souffrent beaucoup et il y a certaines femmes qui se plaignent du repas.
Donc ce sont des conditions plutôt difficiles. C'est pas simple quoi.
Oui, c'est pas simple. Parce que les femmes chez nous sont habituées à... Ça dépend des moyens financiers de tout un chacun. Donc certaines femmes aisées qui sont habituées à circuler soit en moto ou dans les véhicules, quand elles vont à la Mecque, elles souffrent beaucoup parce qu'il faut marcher. Souvent on prend le bus, mais il faut beaucoup marcher. Il faut beaucoup marcher. Il y a trop de monde aussi, excessivement de monde. Donc, c'est gênant.
Et comment sont-elles souvent accueillies? Est-ce qu'elles vous ont parlé de la manière dont elles étaient accueillies par les femmes là-bas?
Oui, bon, généralement, chaque pays accueille ses pèlerins. Par exemple, il y a l'ambassade du Mali qui fait accompagner ses pèlerins par... Des membres, il y a une association, un groupement au niveau du Mali qui voit le groupement par avant les pèlerins. Donc ce sont eux qui sont là pour accueillir les pèlerins. C'est comme ça.
Très bien. Et alors, est-ce qu'elles rencontrent des femmes locales ou est-ce qu'elles restent dans leur cocon avec leur groupe par nationalité?
Généralement, elles restent... par exemple, le Mali a un local en Arabie Saoudite qui accueille les pèlerins maliens. Donc, les hommes sont de leur côté, les femmes sont de leur côté, mais tous les locaux, c'est pour le Mali. Bon, il y a aussi les agences de voyage et privées aussi. Ils organisent le pèlerinage et ils louent des hôtels aussi. Et leurs pèlerins, ils logent.
Et en tout cas, malgré ces témoignages assez difficiles, enfin ces descriptions qui laissent imaginer avec la chaleur, la promiscuité, les déplacements sous le soleil tapant, ça vous donne quand même envie d'y aller.
Oui, ça me donne envie d'y aller parce que il paraît que quand on prie sous le soleil, Dieu accepte toutes vos prières, même si c'est mal fait.
Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les musulmans qui vivraient dans les parties les plus froides du monde.
Voilà, c'est ça le gros problème même. C'est ça le gros. Par exemple, moi j'ai peur d'y aller parce que j'ai la tension et je suis diabétique. Donc ces deux facteurs, avec le soleil, ça ne va pas trop.
Qu'est-ce que vous en attendriez de ce voyage, Mariam?
J'attends que mes péchés soient... Et que Dieu me pardonne pour tous les péchés que j'ai commis. Mm-hmm. Et j'aurai aussi une leçon à réciter à mes frères et à mes sœurs, à mes enfants. Et tout ce que j'ai vu là-bas, c'est un séjour, c'est un peu de tourisme. Et quand on voyage, j'ai fait l'Europe, mais j'ai jamais fait l'Arabie Saoudite. Donc je peux raconter aux gens ce que j'ai vu là-bas.
Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Mariam, et très bonne soirée à vous.
Merci beaucoup à vous, pareil.
Et si vous qui nous écoutez souhaitez faire comme Mariam, et que vous êtes une femme, vous êtes la plus que bienvenue. Parlez, que vous ayez fait le pèlerinage ou pas, hein. Si vous l'avez fait, dites-nous ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et si vous ne l'avez pas fait, expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous. La foi au féminin ce soir dans Dialogue des religions, nous parlons des hajjas, ces femmes qui vont en pèlerinage à la Mecque. On l'a dit en début d'émission, il y a des dispositions un peu particulières. Nous venons d'avoir le témoignage d'une femme qui ne l'a pas fait mais a entendu par des amis, par des proches ce qui s'y passait pour les femmes. Qu'en est-il pour vous? Dites-nous, appelez-nous 001 202 205 26 33, le standard de VOA Afrique est là pour vous. Vous pouvez également vous exprimer via notre site Facebook. Un auditeur, Brahima Doumbia, nous a appelé le premier pour nous dire que c'était une obligation mixte et que cette mixité se retrouvait dans les rues de la Mecque parmi les pèlerins. Continuons donc notre tour du côté du standard. Nous sommes avec quelqu'un dont je n'ai pas entendu le nom, mais qui me le dira lui-même. Bonsoir. Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Oui, qui est avec moi? Qui est avec nous?
C'est Théadoum Ozana depuis le Moto.
Soyez le bienvenu, Théadoum. Depuis où êtes-vous?
Le Moto au Tchad.
Au Tchad, très bien. Alors dites-nous. Vous n'êtes pas une femme, oui. Objectivement, mais qu'est-ce que ce sujet vous inspire, les femmes qui vont faire le pèlerinage à la Mecque?
Oui, faire le pèlerinage est une bonne chose. Mais moi, surtout, je ne comprends pas pourquoi faire la différence entre hommes et femmes en posant un certain nombre de conditions. Parce que si ça y est des questions de vie, je ne vois pas la question de genre là.
Mais alors, quand vous remettez en question le fait de faire la distinction, est-ce que vous parlez de l'émission ou est-ce que vous parlez du voyage en lui-même?
Oui, je parle de voyage en lui-même parce que vous avez dit ils ont posé un certain nombre de conditions pour
absolument.
Les femmes qui viennent à la lettre pour le pèlerinage.
Oui.
C'est pourquoi j'ai dit, à mon humble avis, je ne vois pas qu'il s'agit de Dieu. On ne doit pas poser surtout des conditions à ces femmes qui viennent à la Mecque.
Alors, ce que vous dites est intéressant, Théadoum, parce que ça va vraiment en contradiction avec ce que nous disait notre premier auditeur, Brahima Doumbia, qui expliquait que les femmes pouvaient être tentées par les hommes parce qu'elles sont plus sensibles que les hommes et que donc on comprenait bien qu'il fallait les séparer. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de voir?
Si réellement on a la foi, on ne devrait pas plutôt se focaliser sur
à être attiré par la femme. Un bon Coran n'est pas celui là qui doit se laisser à avoir. Parce que dans ce cas, c'est déjà la mondanité. Et quand on vient à la Mecque, c'est pour adorer Dieu, on devrait avoir la crainte de Dieu. Et le Coran, le livre de texte, interdit ce qu'on appelle, par exemple, la fornication ou l'adultère. Donc, ceux-là qui viennent là-bas pour adorer doivent avoir la foi, doivent croire en Dieu. Nous ne devons pas avoir l'œil sur les femmes qui doivent les exciter, des trucs comme ça. Donc, cela n'est pas une raison pour dire qu'on doit imposer à ces femmes pour éviter de tels cas.
On a bien compris votre pensée, Théadoum. On a bien compris, balle au centre, ce qui compte, ce qui est au cœur de ce pèlerinage, c'est la foi. Et que l'on soit un homme ou une femme n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on vient y faire. Et c'est plutôt se rapprocher du Dieu que l'on prie. Merci beaucoup. Continuons du côté du standard. Tout à l'heure, Mariam Koulibaly, je crois, évoquait des agences de voyage qui organisaient des séjours pour notamment des pèlerins africains. Eh bien, nous sommes avec une femme qui, elle, promeut les voyages, les pèlerinages à la Mecque et qui elle-même a fait le voyage à la Mecque. Bonsoir Fatimata, si c'est Fatimata Kouyaté.
Bonsoir madame.
Merci d'être avec nous. Alors je disais en vous introduisant, vous êtes doublement intéressante parce que vous avez fait le pèlerinage à la Mecque, vous êtes une Hadja et vous êtes à la tête d'une agence de voyage qui promeut des voyages à la Mecque. Je voudrais qu'on commence par la croyante en vous. Quand est-ce que vous avez fait le pèlerinage? Peut-être l'avez-même vous fait plusieurs fois.
En fait, j'ai fait le pèlerinage plusieurs fois.
Et votre premier pèlerinage, alors? Parlez-nous de votre premier pèlerinage.
Mon premier pèlerinage, en fait, il a été doublé d'un voyage professionnel, en réalité. C'est-à-dire que j'ai fait deux tiers de coup. J'avais un groupe de pèlerins, pas encadré en réalité, mais c'était juste pour voir comment les choses se passaient sur place. Et j'en ai profité pour faire mon pèlerinage personnel. Donc, à ce double titre, j'ai pas une double vision, mais j'ai une vision qui intéresse chaque partie, quoi.
Alors, pour la croyante, vous allez à la Mecque, qu'est-ce que ça représentait pour vous? On sait que c'est l'un des cinq piliers de l'islam, mais personnellement, est-ce que c'est arrivé à un moment de votre vie où vous en aviez particulièrement besoin?
Non, en fait, ça n'a pas été dicté par un besoin spécifique, moral ou personnel, mais en réalité, c'était l'occasion qui se présentait et j'en ai profité pour faire mon hajj. L'occasion, c'était que, comme j'étais organisatrice, je suis d'ailleurs organisatrice du hajj, j'en ai profité pour faire mon propre hajj.
Et alors, comment les choses se sont passées? Puis, je parle de votre première fois sur le terrain. Quand vous êtes arrivé?
Sur le terrain, il y a eu une spécificité pour nous parce que ça a coïncidé avec les premiers moments de la création de la filière privée au Mali. Vous savez qu'au Mali, il y a deux filières. Il y a la filière gouvernementale et il y a la filière privée constituée d'agences de voyage qui organisent les hajj qui ont été...
En fait, ma question est vraiment... ce que je vous demande, c'est vraiment de nous donner votre témoignage dans la ville de la Mecque. Comment vous avez été accueilli par les autorités ou par les Saoudiens? C'est ce qui nous intéresse.
Les Saoudiens ont leur façon de... Ils ont leur culture de la vie, comme nous avons notre culture de la vie. Même si, par exemple, au Mali, nous sommes un pays à 80% islamique. Et de ce point de vue, nous avons une vision que nous avons comparée quand même sur le... En fait, en réalité, sur le terrain même, on s'est rendu compte qu'il y a une grande différence culturelle entre nous et l'Arabie Saoudite.
Vous pouvez nous donner quelques précisions? Où est-ce que vous voyez, vous avez vu les plus grosses différences culturelles, par exemple?
Alors, en fait, au Mali, nous pouvons dire qu'on a un islam tolérant. Le hijab n'est pas en réalité quelque chose d'obligatoire au Mali pour le moment. Et nous avons un islam tolérant. Et en Arabie Saoudite, les femmes sont couvertes des pieds à la tête. Et pendant tout le temps, il faudrait que même nous, visiteurs, que nous nous sommes rendus là-bas pour des raisons professionnelles ou même pour des raisons de foi, nous étions obligés de nous mettre au pas par rapport à ce qui se passait. En réalité, on était obligés de mimer ce qui se passe sur place, c'est-à-dire nous couvrir de la tête aux pieds.
Mais j'ai lu qu'il fallait que le visage reste à découvert et les mains aussi.
Le visage et les mains sont à découvert, mais les pieds doivent être couverts. Mais le visage et les mains restent à découvert. Oui,
est-ce qu'il y a des spécificités que vous avez remarquées? Vous organisez des hajj, donc vous avez pu le voir pour les femmes et pour les hommes. Dans quelles conditions vivent et voyagent les femmes?
Bon, en réalité, en Arabie Saoudite, à part la période du hajj, on n'a pas l'occasion de voir tellement les femmes. Les femmes, c'est en réalité, leur vie se passe à l'intérieur et c'est les hommes qui sont surtout dehors. Mais pendant le pèlerinage, les femmes qui sont dehors le sont pour des raisons bien évidentes, pour participer, soit participer de façon active au hajj, c'est-à-dire faire leur hajj elles-mêmes, soit en tout cas elles sont encadrées, totalement encadrées par leur mari. Et je crois que c'est la majeure partie des femmes sont encadrées par leur mari. J'en veux pour preuve, quand nous faisons par exemple ce qu'ils appellent le tawaf, c'est-à-dire le tour de la Kaaba.
Le tour de la Kaaba.
On rencontre généralement les femmes, elles sont protégées par leurs hommes, entre parenthèses. Les hommes ont leurs deux mains qui sont sur la femme pour la protéger. Donc même quand quelqu'un veut venir passer à côté, l'homme il soulève un peu le coude pour empêcher la personne, l'intrus, de toucher ou en tout cas d'être en contact direct avec la femme.
Et d'un point de vue de l'organisation, est-ce que les femmes peuvent voyager en groupe seul ou bien il faut absolument qu'il y ait un homme avec elles?
Non, pendant la Umrah que les femmes sont obligées de voyager, en tout cas dans mon pays, elles sont obligées de voyager avec des hommes. Mais pendant le Hajj, les femmes sont libres de voyager.
Alors, la Umrah, c'est le petit pèlerinage.
Et donc, ce petit pèlerinage, pendant le rythme normal du pèlerinage, on doit d'abord procéder à ce petit pèlerinage d'abord, c'est-à-dire le tour de la Kaaba cette fois, le tour de Safa et Marwa et l'autre cette fois également, et avant de descendre, c'est cette première opération qui s'appelle la Umrah en réalité. Mais c'est une opération répétitive dans le cadre du rituel normal du Hajj. Par exemple, le jour même où on va à Arafat, le lendemain, nous sommes obligés de revenir faire sept tours de la Kaaba, de faire sept fois Safa et Marwa. Et c'est un rituel qui se répète, je crois, trois ou quatre fois avant la fin.
Alors, que l'on comprenne bien, si je vous suis bien, Madame Cissé, il n'y a pas de particularité à un pèlerinage pour le Hajj pour une femme. Il n'y a rien de particulier.
Non, parce que, par exemple, nous qui sommes d'autres pays qui avons besoin de visa pour venir, le visa n'est accessible que si c'est pendant le Hajj. Et si ce n'est pas pendant le Hajj, une femme seule ne peut pas venir visiter l'Arabie Saoudite pour la Umrah ou autre raison. On est obligé de se faire accompagner par son mari, son frère. Mais pendant le Hajj, ceci n'est pas une obligation qui est maintenue.
Donc elles peuvent aller et venir dans les magasins, dans les restaurants, sans problème?
Oui, pendant toute la durée du Hajj.
Donc vous diriez, est-ce que vous diriez que pour faire le pèlerinage, il n'y a rien de... Vous ne donneriez pas de conseils particuliers à une femme qui se prépare?
Bon, en réalité, le Hajj, moi je peux dire que c'est une période de relâchement. Je le dis comme ça, c'est une période de relâchement, d'autant plus que quand les gens viennent pour faire le Hajj, chacun sait que c'est le cinquième pilier de l'islam. C'est la fin de toutes les obligations qui sont demandées à un musulman. Donc c'est ce cinquième pilier de l'islam, ça se fait ailleurs, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, et c'est pour cette raison, je pense, qu'il y a eu cette liberté de mouvement. La liberté de mouvement, parce qu'il y a le rituel qui est important. Et ce rituel-là, quand on voit que dans la mosquée, les femmes et les hommes, à part au Raouda, à Médine, j'ai vu que partout, les femmes et les hommes prient ensemble, il n'y a pas de distinction. C'est seulement à Médine que j'ai vu qu'il y a une distinction au Raouda, où on met les gens, les femmes et les hommes, à part. Mais en réalité, pendant le Hajj, les gens sont, de toute façon, ils s'interpénètrent totalement. On fait tous les rites ensemble. Il n'y a pas une distinction très, très nette entre femmes et hommes. Bien sûr que on se rend compte que les femmes essaient d'être du même côté, les hommes également. Mais à un certain moment, on voit qu'il y a ce regroupement qui ne fait pas le sexe n'intervient pas dans la dissolution des gens
C'est entendu. Merci beaucoup pour votre témoignage. Cette émission touche à sa fin. Merci Fatimata Kouyaté Sissé. Merci à toutes ceux et celles, rares mais précieuses, qui ont appelé. Merci également à Joselle Morissin, qui était à la réalisation de cette émission. C'était Anastasie Tuliache avec vous. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver ultérieurement, mais surtout restez sur VOAfrique.